Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Dépenses et recettes 2022, le dernier budget du quinquennat présenté aujourd'hui. Dans la caisse dépenses, on devrait atteindre les 16 milliards d'euros au bas mot, loin de l'orthodoxie budgétaire des premières années Macron, détaille dans un instant. Et la droite accuse, Emmanuel Macron fait campagne avec le carnet de chèques de la France. Le président des Républicains sera votre invité tout à l'heure, Nicolas.
Oui, Christian Jacob, dans le grand entretien de la matinale, il publie... J'en ai tellement vu ce que j'ai appris du Beauvoir chez Robert Laffont et il dialoguera avec vous, évidemment. 01 45 24 7000.
Y aura-t-il un pass sanitaire local? Conseil de défense ce matin et réflexion sur un allègement des contraintes dans les départements où l'épidémie est sous contrôle. À la une, il y a aussi l'abandon du projet pharaonique de transformation de la gare du Nord à Paris, annoncé cette nuit par la SNCF. Ces internautes au tribunal aujourd'hui pour avoir envoyé des messages antisémites à une candidate du concours Miss France. Thomas Pesquet en direct dans le téléphone sonne ce soir sur Inter à 40 jours de son retour sur Terre. Et le sommet des dieux, ça n'est pas l'ISS mais l'Everest dans un manga somptueux adapté au cinéma cette semaine. France Inter. Lors du premier budget du quinquennat il y a 4 ans, la priorité c'était la baisse des dépenses publiques. Les années ont passé avec leur crise, les gilets jaunes, le Covid et tout a changé désormais. Le budget 2022 en est la preuve qui sera présenté tout à l'heure et nous serons à Bercy dans un instant. Mais les annonces des derniers jours pour Marseille, pour la police, pour les indépendants, pour les harkis font déjà rager l'opposition. La droite en première ligne, Maxence Lambrecq, qui accuse Emmanuel Macron de faire du quoi qu'il en coûte électoral.
La droite veut faire passer l'idée qu'Emmanuel Macron serait laxiste autant sur la sécurité que sur le budget.
Le chéquier d'aujourd'hui, c'est la dette de demain et les impôts d'après-demain.
Le patron du groupe LR à l'Assemblée, Damien Abad.
On ne peut pas continuer à endetter massivement les Français, à vivre toujours au-dessus de ses moyens et à considérer que ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Le quoi qu'il en coûte sanitaire, oui. Le quoi qu'il en coûte électoral, c'est non, parce que ça se fait sur le dos des Français.
La dépense française actuelle est une dépense utile, nécessaire, qui portera ses fruits.
Voici la réplique du rapporteur général du budget, Laurent Saint-Martin.
Ils disent qu'on dépense trop. Je vous inviterai juste à regarder les programmes de chacun et bien de s'assurer qu'eux ne sont pas trop dépensiers.
Dans son viseur notamment, Anne Hidalgo, prête à doubler le salaire des enseignants, le socialiste Boris Vallaud prend sa défense.
Vous aurez en temps et en heure la présentation du programme dans son entier et n'ayez pas de doute. Les choses seront financées, ils seront surtout financés dans la justice. Voilà, ça changera un peu. Hein.
N'attendez rien, en revanche, de Jean-Luc Mélenchon.
Non, je crois que la question de la dette n'est pas fondamentale.
Le député Éric Coquerel.
Mais arrêtons d'en faire l'alpha oméga de toutes les politiques économiques. C'est ce qui s'est passé avant le Covid et on l'a payé en matière de santé, donc c'est évidemment pas ce qu'il faut faire.
En 2017, François Fillon proposait de supprimer 500 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, aucun candidat ne semble vouloir faire la différence sur la rigueur budgétaire.
Maxence Lambrecq, alors dans le détail, le projet 2022 sera présenté ce matin en Conseil des ministres, sorti tout chaud des bureaux de Bercy, le ministère de l'économie et des finances, où vous vous trouvez, Delphine Simon, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est théoriquement la fin du quoi qu'il en coûte, plus de crédits d'urgence l'an prochain, mais tout de même, Delphine, une longue liste de dépenses.
Oui, d'abord côté ministère, aucun perdant, tous ou presque seront gagnants, en particulier les ministères régaliens, les armées, l'intérieur, la justice ou la recherche. L'éducation est bien dotée, il s'agit de revaloriser les salaires des enseignants. Mais dans ce budget, deux cases vides qui pèsent plusieurs milliards d'euros, le futur revenu d'engagement pour les jeunes et le plan d'investissement, on n'en connaît ni le montant, ni les arbitrages. Le gouvernement les ajoutera par amendement au cours du débat parlementaire. Autre inconnu budgétaire, les promesses qu'Emmanuel Macron multiplie depuis l'été, le chèque énergie exceptionnel pour les ménages modestes, l'enveloppe pour les calamités agricoles, le plan d'1,5 milliard d'euros pour Marseille, la contraception gratuite jusqu'à 25 ans ou encore la hausse de salaire pour les sages-femmes à l'hôpital. De quoi alourdir un déficit fixé pourtant à 4,8% l'an prochain.
Et de fait, on est loin de l'orthodoxie budgétaire, Delphine.
Ouais, pourtant, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, défend le sérieux budgétaire. Une partie des fruits de la croissance, dit-il, doit combler les déficits. Mais en année électorale, on l'a compris, pas question de serrer la vis, l'heure est à la relance. Si ce budget à trous agace certains, ce n'est pas pour autant un budget insincère. On se souvient du reproche fait par la Cour des comptes à propos du dernier budget de François Hollande. Car dans son scénario, Bercy fait preuve de prudence, explique un économiste. C'est vrai qu'on dépensera plus qu'annoncée, mais Emmanuel Macron peut compter sur la reprise plus forte que prévue. Ce sera donc contrebalancé par de meilleures recettes, cotisations, TVA ou impôts.
Delphine Simon en direct de Bercy avec Christophe Papon.
On va donc parler gros sous hein, ce matin, Florence, au gouvernement, mais aussi épidémie.
Et oui, faut-il lever le pass sanitaire là où ça va bien? Dans ces 35 départements où le taux d'incidence est passé sous les 50 cas pour 100 000 habitants, question posée en Conseil de défense, alors que certains territoires restent franchement dans le rouge, comme les Bouches-du-Rhône, 242 cas pour 100 000 habitants, et l'un des taux de vaccination les plus bas de métropole. Reportage à Port-de-Bouc, à une quarantaine de kilomètres de Marseille, signé Romane Porcon.
Dans le quartier des Comptes, Panmera sort de la pharmacie après un énième test antigénique. Cette habitante de 70 ans est catégorique, elle ne se fera jamais vacciner.
J'ai un petit peu peur de le faire parce que je ne sais pas les effets secondaires. Ma fille non plus ne veut pas se faire vacciner.
Ils ont sorti un vaccin comme ça a été trop rapide et qu'ils obligent, c'est ça le plus.
Cassandra, 31 ans, a un avis bien tranché sur la question.
Qu'on s'en fout en vrai. Je parle de ma tranche d'âge parce que les jeunes, ils n'en ont rien à carrer. Port-de-Bouc, c'est à part, ça fait partie comme Marseille, c'est une ville à part.
Ici, il n'y a pas de centre de vaccination. Il est possible de se faire vacciner à la maison médicale. Deux journées par semaine, la salle d'attente est pourtant bien vide. Même chose à Martigues, à 4 km d'ici. Rose Delima est coordinatrice du centre de vaccination.
Port-de-Bouc, on est passé de 40 rendez-vous jour à une dizaine, quinzaine par jour. Soit on est arrivé au bout du nombre de personnes à vacciner, soit il ne nous reste plus que les réfractaires à la vaccination. Les rectorats avaient fait appel au collège et au lycée pour qu'ils viennent se faire vacciner. Sur deux collèges, on a eu 10 enfants par collège, sur une population de 400 élèves. Hein.
Alors pour convaincre la population, la mairie de Martigues a décidé de mettre en place dès la semaine prochaine un bus de vaccination qui se rendra au pied des cités.
Et à Port-de-Bouc, moins de 48% des habitants ont reçu une première dose. Autre territoire moins vacciné que la moyenne, le Haut-Rhin, où l'épidémie avait fait des ravages lors de la première vague, obligé de déclencher le plan blanc aujourd'hui dans 10 hôpitaux du secteur de Mulhouse. Opération non essentielle déprogrammée parce qu'il n'y a plus assez de personnel. 170 salariés ont été suspendus parce qu'ils refusent le vaccin, qui viennent s'ajouter à un fort taux d'absentéisme. Trop cher, la SNCF abandonne le projet pharaonique de transformation de la gare du Nord à Paris. 700 000 personnes y transitent chaque jour. La gare rénovée devait devenir un grand centre commercial conçu par le groupe Auchan pour une facture qui a grimpé à 1,5 milliard d'euros. Dérive insupportable selon la SNCF qui jette l'éponge, Maxime Deps. D'autant que le projet faisait déjà polémique.
Pharaonique, trop commercial. Dans le sillage des élus communistes et écolos, la maire de Paris, Anne Hidalgo, en campagne pour sa réélection l'an dernier, s'était très vite installée dans le wagon de tête des contestataires au projet. Projet validé contre sa volonté par le préfet d'Île-de-France. En juillet 2020, Michel Cadeau délivre un premier permis de construire, mais ce dernier doit très vite mettre de l'eau dans son vin. Il faut calmer les riverains constitués en association pour contrer ce méga chantier menaçant sous leurs fenêtres. Sous la pression en début d'année, les architectes revoient leurs plans. Le bâtiment est rapetissé, un étage supprimé, le projet verdi avec un jardin public en toiture plus grand que ce qui était prévu initialement. Un geste mais qui ne change en rien l'ADN du projet, diront alors les opposants qui ont gagné. Aidés, reconnaissent-ils aussi sans doute par la pénurie de matériaux qui depuis des mois fait monter les prix sur les chantiers.
Un nouveau projet devrait donc voir le jour, sans doute moins ambitieux pour être prêt en partie pour la Coupe du Monde de rugby en 2023. Un ministre devant la justice, Alain Griset, convoqué aujourd'hui au tribunal de Paris pour avoir omis 170 000 euros détenus sur un PEA au moment de sa déclaration à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, de l'argent de la Confédération de l'Artisanat du Nord dont il était président et qu'il a remboursé depuis. Alain Griset est chargé des PME depuis un an au gouvernement. Au tribunal également, 8 internautes qui avaient posté des messages antisémites sur Twitter pendant la dernière soirée Miss France. Ils s'en étaient pris avec d'autres à Miss Provence, sacrée première dauphine, qui avait évoqué les origines italo-israéliennes de son père, Mathilde Vinceneux.
4 hommes et 4 femmes, auteurs d'une dizaine de tweets sur les plus de 500 qui ont visé April Benayoum après la diffusion de son portrait au concours Miss France. « Je vote contre la juive », écrit l'un d'entre eux. La jeune femme est aussi traitée de chienne. Et puis il y a ces mots-clés en pagaille, judaïsme, étoile jaune, sionisme. Le soir même, les 8 prévenus ont tous supprimé leur poste. Ils ont entre 20 et 60 ans, un profil de monsieur et madame tout le monde.
Ce sont des personnes qui sont quasiment toutes insérées socialement, elles travaillent, elles sont diplômées.
Muriel Waknin-Melki, présidente et avocate de l'organisation juive européenne, partie civile dans ce procès.
Ça illustre la banalisation de l'antisémitisme que nous dénonçons maintenant depuis plusieurs années. Notre inquiétude, c'est que parfois, dans la foule des personnes qui suivent les propos que d'autres ont pu écrire sur Twitter, à un moment donné, ces mots de haine s'impriment dans des esprits. Et sur des esprits plus faibles, ça peut occasionner des passages à l'acte criminels, c'est-à-dire de vraies violences physiques.
Les 8 auteurs de ces tweets risquent une peine d'un an de prison et 45 000 euros d'amende.
Mathilde Vinceneux, l'Australie frappée par un séisme de 5,8 sur l'échelle de Richter il y a quelques heures. Vent de panique à Melbourne, mais pas de victimes ni de dégâts importants. Aux Canaries, c'est la lave du volcan Cumbre-Vieira qui emporte tout sur son passage. 6 000 personnes évacuées sur l'île de La Palma. Les coulées de lave se dirigent désormais vers la côte où elles pourraient provoquer des émissions de gaz toxique, Yann Gallic.
Des colonnes de fumée qui atteignent plusieurs centaines de mètres de haut, de la lave en fusion qui emporte tout sur son passage, recouvre les routes, engloutit les jardins et les maisons. Les images de cette éruption volcanique sont impressionnantes. Plus de 180 bâtiments et habitations ont déjà été détruits par les coulées de lave.
Attention, attention, habla la Guardia Civil.
Dans les zones menacées, la police et l'armée évacuent les habitants obligés de quitter leurs maisons. Les coulées de lave poursuivent inexorablement leur avancée vers la côte. Quand elles entreront dans la mer, on risque de voir apparaître des nuages de gaz toxiques potentiellement dangereux, explique Patrick Allard. Il est volcanologue à l'Institut de physique du globe de Paris.
Là, on voit des coulées qui ont avancé relativement vite. Certaines ont fait 700 mètres à l'heure au début. Là, c'était plus lent dans la partie basse. Les coulées n'ont pas encore atteint la mer, mais ça pourrait se produire. On a affaire à un magma basaltique, là. C'est plus de 1000 degrés. Oui, on est plus proche de 1100 degrés. En tout état de cause, on a largement le temps d'évacuer les populations, d'avertir les populations qui étaient déjà alarmées par les séismes ressentis. Et donc on a eu largement le temps d'évacuer les populations des zones menacées.
D'après les experts, l'éruption du volcan Cumbre-Vieira pourrait durer encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Et loin du magma des profondeurs de la Terre, c'est à l'espace, chers auditeurs, que vous pourrez vous adresser ce soir. Thomas Pesquet lui-même vous répondra dans un téléphone sonne spécial et spatial en direct de l'ISS à partir de 19h. L'astronaute en est à presque 5 mois dans l'espace. Il redescendra sur Terre dans 40 jours. Et si vous lui demandez comment il va, il vous répondra très bien, avec son plus beau sourire. On pourra le voir en vidéo. Les héros sont toujours souriants. Sophie Becherel, bonjour.
Bonjour.
Même si la vie dans l'espace, de longs mois durant, n'est pas toujours facile.
Maintenant qu'on l'a vécu, on le sait, la vie confinée, ça n'est pas la vie rêvée, même si on a signé pour ça. Et à mi-parcours de sa mission, Thomas Pesquet le reconnaissait. Une certaine lassitude l'a gagné fin juillet.
Toutes les journées se ressemblent. On est habillé pareil, on a toujours les mêmes t-shirts, les mêmes espèces de pantalons, c'est les mêmes personnes qu'on voit tous les jours, les mêmes endroits. On mange plus ou moins la même chose parce que la variété n'est pas infinie. Au même endroit, il y a des activités qui reviennent très souvent. L'expérience scientifique change, mais l'entretien, la logistique, tout ça, c'est assez répétitif au final.
Lassitude vite surmontée, d'abord parce que, comme il a coutume de le dire, c'est à un moment précis que ce sentiment survient, quand l'excitation des débuts est passée, quand le gros du programme, 3 sorties dans l'espace pour lui, est achevé et qu'en plein été, l'envie de vivre au plein air vous gagne. Mais ce coup de mou donc est loin derrière, l'emploi du temps chargé empêche de gamberger, Thomas Pesquet est un très gros bosseur, il a plus d'une centaine d'expériences scientifiques à réaliser, et puis l'astronaute français a dû remplacer au pied levé un collègue américain pour une 4e sortie extravéhiculaire. Encore un shoot d'adrénaline. Enfin, son équipage multiculturel, particulièrement soudé, n'a eu de cesse de renforcer les liens, de vivre des moments ensemble, en organisant par exemple des Jeux Olympiques de l'espace, sans compter, qui sait, des discussions sur les ouragans, les feux de forêt, la pollution ou la beauté de la Terre. Pour voir tout ça, l'ISS, c'est un fauteuil d'orchestre.
Sophie Becherel, merci. Thomas Pesquet en direct de l'ISS, en son et en image, à partir de 19h pile. Il ne restera pas jusqu'à 20h parce que les créneaux avec l'espace ne sont pas illimités, mais vous pourrez lui poser vos questions au cours de cette soirée spéciale qui commence dès 18h avec vous, Sophie Becherel, avec Mathieu Vidard et vos invités. Enfin, moins haut que l'ISS, mais sur le toit du monde, l'Everest fait toujours rêver les alpinistes. Sublimé par le manga du japonais Jiro Taniguchi, le sommet des dieux est adapté au cinéma cette semaine par le créateur d'Ernest et Célestine et du grand méchant renard Patrick Imbert. Le résultat, Corinne Pellissier, est une immense réussite.
Les paysages sont à couper le souffle et sensations plus spectaculaires encore que dans le manga d'origine. Les tempêtes de neige, le froid, l'adrénaline, rarement un film d'animation aura restitué à ce point l'atmosphère des pentes enneigées de l'Himalaya et leur immensité. Un récit qui mélange la fiction et la réalité autour d'un des plus grands mystères de l'alpinisme, la paternité de l'ascension de l'Everest.
Ce type a disparu depuis des années et hop, il refait surface avec l'appareil de Mallory.
Si Mallory a atteint le sommet, ça peut changer l'histoire de l'alpinisme.
Le Britannique Mallory était-il le premier dans les années 20 à se photographier sur le toit du monde ? La preuve est peut-être à la portée de celui qui parviendra à faire parler la pellicule de ce vieil appareil photo retrouvé sur la crête nord de l'Everest. Une quête du Graal rythmée de flashbacks de visages que l'on va suivre à la manière d'un thriller entre Tokyo, Katmandou, les Alpes françaises, aux côtés d'un reporter japonais et d'une ancienne star de l'alpinisme. Des destins qui s'entrecroisent, de l'action, du suspense et beaucoup de poésie, dont ce sommet des dieux qui séduit autant par son dessin à l'esprit très franco-belge que par son sens de la précision, du dépassement de soi. L'immersion est totale et le récit passionnant.
Pourquoi tu fais ça ? Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Il n'y a plus que ça qui compte.
Le sommet des dieux, c'est un film France Inter, évidemment.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Et attention au brouillard, Marie-Pierre.
Et oui, Nicolas, ils sont nombreux ce matin, localisés près de la Manche, sur le Nord-Pas-de-Calais, en Bretagne, en Basse-Normandie, mais aussi dans le Val-de-Loire, le Val-de-Saône, comme dans la vallée du Rhône et la vallée de la Garonne. Et après la dissipation de ces brumes, eh bien, vous passerez une matinée ensoleillée, avec quelques cumulus qui vont se former sur les Pyrénées. Et puis on a le Mistral qui souffle toujours dans le couloir rhodanien, sous un mercure en baisse. Hein. En fait, on retrouve des normales de saison. Au plus bas, il fait 2 degrés seulement à Saint-Ouen-les-Parets dans les Vosges, 4 à Épinal, 7 à Rennes et Lons-le-Saunier. 9 à Brive, vous avez 11 à Paris, contraste avec les 20 à Menton et à Figari.
Et soleil et ciel bleu cet après-midi.
Eh oui, c'est le retour en force de l'anticyclone pour ce premier jour de l'automne. Ça donne un beau temps d'arrière-saison sur les trois quarts du pays, avec un voile quand même au nord de la Seine, mais ça restera lumineux. Et puis sur les Pyrénées, le massif central, l'activité diurne donnera quelques cumulus qui resteront inoffensifs, avec des températures très agréables, 20 à Étretat ou Saint-Valery-sur-Somme ou à Calais, 21 à Metz ou Strasbourg, vous aurez 22 à Aurillac, à Lyon comme à Andes, 23 à Paris ou Cucugnan, 24 à Nantes, 25 à Toulouse, 27 à Draguignan et à Marseille et 28 à Ajaccio.
Merci Marie-Pierre et à tout à l'heure. France Inter, 8h18.